Le podcast En toute transparence a été imaginé avec l'ADEME.
La transparence, il ne jure que par ça.
En toute transparence. En toute transparence.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast dédié aux entreprises qui obtiennent des succès incontestables en intégrant la RSE au cœur de leur offre. Des entreprises sélectionnées grâce à la plateforme Réussir avec un marketing responsable, que j'ai créée grâce au soutien de l'ADEME, puis avec l'aide de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo et de l'école Audencia. Je suis David Garbousse et dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes, en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent les difficultés qu'ils ont rencontrées, en toute transparence, comment ils les ont contournées, et ils nous donnent les clés pour réussir. Mais attention, l'originalité de ce podcast, c'est que j'ai avec moi, en studio, des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ces discours de marque, avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Et il se trouve qu'ils sont nombreux aujourd'hui puisque nous sommes à Nantes, chez Audencia, partenaire historique de la plateforme, où nous avons embarqué le studio de So Good pour l'installer au cœur d'un des amphis de l'école.
En toute transparence. En toute transparence.
Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir un duo stratégique. Après Carrefour et Pierre Fabre, où nous avions eu la chance de voir comment le marketing et la RSE travaillaient ensemble, nous allons recevoir un autre duo indispensable pour pérenniser nos productions alimentaires, le marketing et les agriculteurs. Je reçois donc aujourd'hui Gérald Saada, directeur marketing, R&D, RSE et nouveaux circuits de Sodiaal, la maison mère de la marque Candia, et Freddy Caric, producteur laitier pour Candia. Bonjour Gérald.
Bonjour.
Bonjour Freddy.
Bonjour.
Alors, quelques mots d'abord sur Candia. C'est une des marques du groupe Sodiaal, qui est un groupe coopératif français spécialisé dans le lait. Les principales marques du groupe sont Yoplait, Candia et Entremont, mais vous commercialisez également des fromages, comme Cœur de Lion ou Le Rustique, à 50% avec Savantia. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en 2019. Vous fédérez 17 669 producteurs, j'espère que le chiffre est juste, sur l'ensemble du territoire, 8539 salariés, 71 laiteries et sites de production, et deux tiers donc des bénéfices sont redistribués aux adhérents tous les ans. C'est une singularité par rapport à une entreprise conventionnelle. Alors Gérald, deux tiers des bénéfices, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous rappeler le principe de fonctionnement d'une coopérative et en quoi ça diffère effectivement d'une entreprise classique?
Eh ben, déjà, bonjour David, bonjour à tous. Ravi d'être là pour pouvoir témoigner de nos pratiques hein, chez Sodiaal. Aussi ravi que tu ouvres sur la coopérative, puisque c'est vrai que pour avoir travaillé dans d'autres environnements, le fait qu'on soit une coopérative fait qu'au quotidien, on travaille quand même de manière relativement différente. Alors, si je te reprends la définition de coopérative, une coopérative, c'est une société où les droits de chaque associé sont égaux, et où le profit est réparti entre eux de manière équitable. Donc ça, c'est la définition d'une coopérative. Une coopérative agricole, c'est donc le profit qui est reversé aux agriculteurs. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même la différence pour l'amont agricole quand on achète des marques qui viennent de coopératives. En l'occurrence, les marques de Sodiaal, c'est Candia, Yoplait, Entremont. Il y en a d'autres, mais ce sont les principales. Et on est à peu près sûr que la valeur va revenir aux éleveurs en achetant ces marques-là. Par ailleurs, Sodiaal, ça représente 20% de la filière laitière en France. Donc, il y a aussi un effet de masse qui est associé à ces marques-là. Et c'est pour ça aussi qu'elles sont aussi présentes dans les rayons.
Est-ce que ça veut dire donc que les actionnaires, ce qu'on représente souvent l'entreprise avec des propriétaires, les propriétaires ouais. Donc de Sodiaal, ce sont chacun des coopérateurs, donc chacun des agriculteurs? C'est comme ça que ça fonctionne?
Exactement, okay. Exactement. Qui sont représentés du coup par un conseil d'administration qui est élu démocratiquement. Et après, le profit est reversé à chaque membre de la coopérative de manière égalitaire.
Alors Freddy, quand on est producteur, ça veut dire quoi? Comment tu vis le truc de manière très concrète au quotidien?
Donc en tant que producteur chez Sodiaal, on a une particularité comparée à d'autres producteurs nationaux qui livrent à un privé par exemple. Nous, on est apporteur de lait et on est aussi apporteur d'idées. Que chez un privé, on va apporter son lait et on négociera le prix de vente avec lui. Et après, une fois que le lait est vendu, on n'a plus rien à dire. Contrairement à Sodial, où on apporte notre lait, et avec ce lait-là, on apporte des idées pour valoriser ce lait. Et donc, en fonction des résultats que l'entreprise dégage avec nos idées, on aura une redistribution à l'ensemble de nos adhérents.
D'accord. Alors, sur le site de Candia, on peut lire, donc, depuis près de 50 ans, nous faisons avec la même passion l'un des plus beaux métiers de la Terre. On n'a jamais fini de grandir. C'est une belle déclaration qui est posée. Et pourtant, en fait, quand, avec les membres du jury, on a découvert que 42% des éleveurs français avaient plus de 50 ans et que d'ici 5 ans, la moitié de la production laitière en France devra être assurée par une nouvelle génération. On s'est dit que ce plus beau métier de la terre n'était peut-être pas aussi assuré de perdurer que ça. Et c'est ce qui a retenu notre attention.
En toute transparence.
Justement, la bonne pratique qui a retenu notre attention pour la plateforme, c'est cette opération de soutien que vous avez lancée avec une nouvelle gamme de lait, dont la promesse est de reverser 5 centimes par brique achetée à un fonds qui aide à l'installation de nouveaux éleveurs. Est-ce que, Gérald, tu peux nous expliquer ce principe ?
Alors, donc c'est un principe qui est simple, qui est de reverser 5 centimes sur ce fonds-là. Ce fonds-là a été créé en 2014 et après, je vais peut-être laisser parler Freddy sur le fonds parce qu'il a participé à l'origine à la création du fonds, donc il en sait plus que moi.
Donc en fait, ce fonds est destiné à faire une cagnotte pour complémenter une action qu'on a auprès des jeunes agriculteurs qu'on a appelée la Smart Box. Et en fin de compte, quand un jeune s'installe chez Sodial, pour ses 5 premières années d'installation, il y a un fonds de 10 000 euros qui lui est attribué. Et en fait, on a pris le principe d'idée cadeau, en fait. Et on s'est dit qu'il y a différents axes dans cette Sodial Box. Et dans cette Sodial Box, en fait, il y a différents items. Donc, il y a par exemple des items où il y a une partie de ces 10 000 euros qui lui sont octroyés sur ses 5 ans, qui permet de le remplacer quand il veut s'absenter pour des formations, pour prendre un peu de recul sur son travail, pour pouvoir analyser aussi comment il fonctionne. Il peut aussi y avoir des aides à la trésorerie quand il y a des moments de coup dur. Et donc, en fait, tout cela permet aux jeunes d'être un peu plus serein dans son démarrage d'activité.
Et ce qu'on a fait, du coup, avec l'initiative sur le lait Candia, c'est de pouvoir abonder dans cette Sodial Box qui était déjà créée. Donc tout ce qui viendra des 5 centimes par litre vendu sera du plus pour la Sodial Box et permettra d'attirer plus de jeunes agriculteurs.
Donc en fait, vous avez médiatisé d'une certaine façon, rendu visible auprès du client quelque chose que vous faisiez déjà et vous avez proposé au client de participer à une bonification de ce dispositif. Et en quoi c'est important d'associer le consommateur dans un moment comme ça ? C'est le rôle, effectivement, Freddy l'a dit, de la coopérative, d'aider les agriculteurs à s'installer. Comment toi, tu en es venu à te dire, il faut que j'aille effectivement porter ce sujet-là auprès de mes clients parce qu'il faut qu'ils comprennent la façon dont on travaille ?
Ça a été, pour le coup, un travail absolument collectif et une co-construction. Bon, alors, avec les consommateurs, bien sûr, mais surtout avec les agriculteurs.
Et, je sais pas parce si que nous... L'idée est venue, en fait, au sein de Sodial, on a différents groupes de travail, dont un groupe jeune. Et en fait, c'est le groupe jeune qui a fait sortir l'idée de trouver cette solution de Smart Box pour inciter les jeunes à s'installer, parce que l'avenir de la filière passe par l'installation des jeunes. Et donc, c'était un des leviers qu'on pouvait actionner pour inciter les gens à s'installer dans notre secteur d'activité.
Ça, je comprends bien, c'était l'idée initiale. Mais après, c'est pris par le marketing en disant on va en faire quelque chose de plus, on va embarquer les clients de Candia. Ouais. Et donc, comment ce déclic il arrive et qu'est-ce que tu...
Alors, pour te redonner un tout petit peu d'historique, donc ce segment, il y a un segment sur le marché du lait qui s'appelle le segment du lait engagé, qui a été créé par C'est qui le patron ? Et qui a été un formidable succès, qui a emmené pas mal de consommateurs vers une consommation plus responsable. Et il y a du coup beaucoup de marques de distributeurs qui ont commencé à s'y mettre. Et quelque part, vu qu'au niveau du marketing, on est intimement en contact avec l'amont agricole et notamment avec ces groupes de travail que mentionnait Freddy, est née l'idée d'un lait qui allait spécifiquement vers les jeunes agriculteurs, sachant qu'au niveau sociétal, cette notion de renouvellement des générations n'est pas super connue, mais commence quand même à émerger. Ça commence à être un vrai, comment dire, souci qui est reconnu par le public, tout comme la rémunération des éleveurs l'était, mais ne l'était pas vraiment médiatisée jusqu'à l'initiative de C'est qui le patron et d'un certain nombre d'autres acteurs. Donc on s'est dit que ça pourrait être bien, en tant que Candia, marque de compagnie, de s'emparer du sujet, et c'est vraiment la connexion avec ce groupe de travail qui a fait naître l'idée. Et après, la connexion avec les consommateurs, l'idée, c'est allé très vite et très naturellement. C'est-à-dire qu'on était persuadé qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour nous en interne. On était persuadé que l'idée, fallait le lancer. Donc, on a fait des interactions avec les consommateurs dans des labs, mais ce n'était pas, je dirais, vraiment, on va dire, des focus group classiques où, je ne sais pas si vous voyez focus group classique, il y a une vitre, on regarde et tout ce qui se passe. Là, c'était vraiment ce qu'on appelle un Candia Lab, c'est comme ça qu'on l'appelle en interne, mais c'est faire venir les consommateurs chez nous, leur faire échanger avec des producteurs, avec des employés, leur montrer des exemples de packaging, de concepts, etc., recueillir les feedbacks. Et à partir du moment où on sentait que ça faisait tilt...
Que la promesse était bien comprise.
Ouais, c'est ça, que le concept, vraiment, il y a quelque chose derrière. On n'a pas, je dirais, back-upé ça avec des centaines d'études et des milliers d'euros d'études complémentaires. On y est allé, c'est allé très vite.
Donc l'objectif, c'était effectivement d'aller vite. Alors effectivement, tu l'as dit, il y a un précurseur sur ce marché, c'est qui le patron. Il y a des initiatives de marques distributeurs, Merci, chez Intermarché ou Respect, chez Cora. Ce que je comprends, c'est que celles-ci se sont plutôt focalisées sur la juste rémunération des éleveurs et que votre sujet, c'est... Alors, je ne sais pas s'il y a un volet rémunération, tu vas nous le dire, mais c'est que, surtout, vous voulez pérenniser, en fait, la production laitière sur le territoire français et faire en sorte que, effectivement, des jeunes puissent s'installer. C'est du coup un nouveau segment au sein du segment du lait engagé. Comment le qualifierais ?
C'est ça, c'est exactement ça. C'est une segmentation au sein de la segmentation. Sauf que cette segmentation, c'est vrai qu'on avait une initiative précédente qui s'appelait les laitiers responsables. Qui était relativement similaire. On abondait sur le prix du lait, mais c'était reversé à l'ensemble des éleveurs de la coopérative. Et il y en a quand même beaucoup, comme tu l'as mentionné. Et donc, en fait, le litrage reversé à tous ces gens-là, ça faisait finalement assez peu, au final, par éleveur. Et puis, c'était assez dilutif aussi en termes d'intérêt pour le consommateur. Donc le fait de recentrer sur quelque chose qui, pour nous, est le problème numéro un de la filière laitière aujourd'hui, qui est le renouvellement des générations, ça faisait du sens d'un point de vue rétribution pour les jeunes agriculteurs et d'un point de vue, angle, concept sur ce marché-là, sur ce segment-là.
Et ça faisait écho, effectivement, à des préoccupations que tu soulignais, Freddy, sur l'accompagnement à l'installation, qui est un vrai sujet. Est-ce que, toi, tu as repris une ferme familiale ? Il n'y a pas eu vraiment de sujet ? Tu t'es pas posé la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ? Est-ce que tu sens que tes enfants, potentiellement, vont se poser la question ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'état d'esprit et les difficultés que rencontre la filière aujourd'hui sur ce sujet ?
Ouais. Donc, moi, je suis la quatrième génération sur l'exploitation où je suis installé actuellement. Et donc, auparavant, j'ai fait mes études dans différents domaines et ayant vu différentes activités, j'ai voulu revenir travailler pour moi, en fait. Et donc, sur l'exploitation où je me suis installé, à la base, j'avais eu une réflexion de vente directe. Et en fin de compte, ce qui a conduit ma réflexion jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cadre de vie et mon mode de vie. Et donc, j'ai développé une exploitation qui a pour but d'être à plusieurs, moi. Et pour avoir un rythme de vie qui, entre guillemets, je dis un peu comme tout à chacun. Parce que le travail d'exploitant, c'est, il faut être présent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est pas je commence le lundi matin et je finis le vendredi soir et puis on verra lundi matin comment que ça se passe, quoi. Donc quand on est tout seul ou en couple, ça veut dire que si on est vraiment que tout seul, on y est tout le temps, quoi. Et donc dans cette optique-là, moi, mon exploitation, j'ai construit comme ça. Et donc pour ramener à cette brique de lait engagée, ce qui est bien, c'est qu'on met le point au point de vue du consommateur pour leur donner la difficulté que l'on peut avoir à avoir de l'attractivité pour notre métier, pour des jeunes. Et donc, par ça, on peut soumettre des idées. Et je trouve en ce moment, on commence à avoir des gens qui arrivent de différents domaines qui ne sont pas agricoles. Et ça fait réfléchir les gens qu'en fin de compte, quand on peut avoir une organisation à plusieurs ou une organisation propre, mais qu'on peut se dégager du temps, c'est un métier qui est tout aussi valorisant que tout autre métier.
Ça redevient attractif, ouais.
Ça redevient attractif et c'est un métier où on a l'avantage qu'on n'a pas de routine quotidienne. Chaque jour est différent et en fonction des saisons, on a des activités différentes toute l'année. Et on n'est pas enfermé ou tout le temps dehors. On a des activités intérieures, extérieures. C'est l'avantage de notre métier.
Très bien. Alors Gérald, tu as dit tout à l'heure que vous êtes passé assez vite de l'idée à l'action. Mmh. On va parler des résultats. Avant, je voudrais que, parce que c'est le principe de ce podcast, que tu me racontes toutes les difficultés que vous avez rencontrées pour y arriver. Parce que la vraie vie, c'est ça. Il y a eu un beau résultat à la fin. C'est pour ça que vous êtes sélectionné. Mais qu'est-ce qu'il a fallu contourner comme obstacle pour arriver à sortir ce produit?
Alors, le premier obstacle, c'est déjà d'émerger dans ce rayon. Déjà, le rayon du lait, c'est un rayon qui est globalement assez compliqué. Il y en a partout. Et donc, émerger dans ce rayon-là, c'est particulièrement un challenge, d'autant plus si tu joues sur une niche dans un segment qui est déjà plutôt niche. Première difficulté, c'est de trouver un moyen d'exprimer cette idée de manière simple et de manière visible pour le consommateur.
Donc ça, c'est le packaging pour faire court qui va effectivement permettre de faire ressortir le produit.
Exactement.
Ouais. Donc là, vous avez un peu...
Et donc là,
vous y reprendre à plusieurs fois.
Disons qu'on est parti du coup au final sur quelque chose de très simple et didactique et un petit peu émotionnel avec un traité plutôt, on va dire, dessiné, qui symbolise justement le lien entre le consommateur, l'éleveur, et qui est symbolisé par la vache qui est entre le consommateur et l'éleveur. Après, autre difficulté, c'est le référencement.
Ouais.
Puisque aujourd'hui, on n'est pas dans une période déjà qui est extrêmement propice à l'innovation, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et on est aussi dans une période où le marché du lait, c'est un marché qui est plutôt en contraction en volume. Donc gagner des places en rayon, c'est une vraie bataille. Et il y a un certain nombre de distributeurs qui ont vraiment poussé l'initiative parce qu'ils ont trouvé ça super novateur. Et chez ces distributeurs-là, ça se passe très bien.
Tu peux les citer, vas-y. ça donnera envie aux autres.
Non, mais voilà, chez Carrefour, chez Cora, chez EMC, chez Leclerc, on est présent. On n'est pas encore présent chez tout le monde. Donc il y a une difficulté qui est de convaincre aujourd'hui et de transformer effectivement l'essai en rayon. On parlera peut-être des résultats après, mais il y a une partie qui est positive et une partie qui est encore en voie d'amélioration dans nos résultats. Et donc la difficulté, ça a été aussi d'aller vite parce que, c'est le fonctionnement d'une entreprise.
Aller vite dans une grosse entreprise, c'est
exactement,
pas facile.
Ouais, exactement. D'accord. C'est-à-dire, on a déjà des plans qui sont prévus, on a déjà des budgets qui sont calés. Et comment on fait pour tout chambouler et accélérer quand on sent qu'il y a un bon coup? Et ça, c'est pas évident. Donc, en fait, ça vient aussi de l'appui de la direction générale. L'appui, en l'occurrence, du président de Sodial, Damien Lacombe, qui croyait énormément à cette initiative et qui l'a énormément poussé. Donc, tout ça fait qu'on peut se rendre agile. Mais voilà, c'est quand même un pivotage qu'il faut faire et une mécanique en interne qui n'est pas forcément évidente et qu'on ne peut pas faire pour toutes les initiatives, sinon ça devient compliqué.
Ouais, déprogrammer, reprogrammer, soutien de la direction générale, effectivement, derrière l'accueil de la distribution. Alors, vous aviez pour objectif de collecter 150 000 euros via cette opération, d'aider à installer 200 jeunes éleveurs. Est-ce que vous avez atteint cet objectif? Comment ça s'est passé?
Alors, on va atteindre les 150 000 euros à la fin de l'année, si tout se passe bien. On a déjà atteint 100 000. Là, il y a une accélération, en plus, à la fois vertueuse, à la fois des rotations et de la distribution qui se fait au fur et à mesure. Donc, on est dans la plaque. Les 200 jeunes supplémentaires, on va pouvoir les installer, sachant que Sodial a un objectif d'installer 1000 jeunes entre 2019 et 2026, et qu'il y en a déjà 800 qui ont été installés. Donc, on est vraiment dans la plaque et même en avant, je dirais, par rapport aux objectifs globalement là-dessus.
Très bien. Alors, je vais venir sur un... Là, on parle d'installer des nouveaux, des jeunes agriculteurs. Il y a beaucoup de pression, ça a été dit par Freddy tout à l'heure, sur la vie de famille, le fait de pouvoir avoir un équilibre entre son engagement professionnel et puis sa vie personnelle. Il y a aussi beaucoup de critiques qui sont émises aujourd'hui sur l'élevage en général, pour notamment des sujets... Un, de consommation de viande, mais ça ne concerne pas le lait directement. Et deux, d'impact environnemental. Alors, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que l'élevage, ça contribue à 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. À l'intérieur de ces 14,5%, on considère que 5 à 6% sont liés à l'élevage en tant que tel. Il y a beaucoup de solutions qui sont en train d'être testées dans tous les sens. Comment est-ce que vous prenez le sujet, vous, chez Sodiaal ? Est-ce que c'est un enjeu stratégique ? Est-ce que vous l'avez posé ? Est-ce que dans les plans d'installation des jeunes agriculteurs, ça fait partie des propositions que vous leur faites pour améliorer les choses ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous adressez ce point ?
Alors, il y a effectivement un objectif que Sodiaal s'est donné, qui est d'atteindre 30% de réduction, mais ça, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite.
Hein. Oh, on peut, oui, bien sûr.
Mais 30% de réduction des gaz à effet de serre à 2030, sur le périmètre de nos usines et de la collecte de lait. Ces 30%, en gros, c'est une démarche qui s'appelle SBTI, qui est une démarche qui est assez cadrée, puisqu'en fait, c'est une démarche qui est en lien avec les accords de Paris. Donc, on s'engage à respecter les accords de Paris. Donc, il y a un cadre scientifique international qui encadre la démarche et qui certifie quelque part le fait qu'on vise à rester en dessous des 2% de réchauffement à 2050. Donc, on est dans le cadre de cette démarche. Cette démarche, elle va de l'amont à l'aval de la chaîne, sachant que l'amont est le plus gros sujet à attaquer, bien que l'aval reste aussi important et qu'on a pas mal d'initiatives, notamment sur les produits et les emballages. L'amont de la chaîne, et notamment via le rejet de méthane, est le gros sujet sur l'empreinte carbone.
C'est quoi ? C'est 80% des émissions qui sont concentrées sur la partie agricole.
C'est ouais, ça, d'accord. Exactement. Donc, l'enjeu numéro un pour Sodiaal, c'est déjà de sensibiliser les éleveurs à ça. Et donc Sodiaal, voilà, comme je le disais, on représente 20% de la collecte. Donc on se doit d'avoir cette position de leader par rapport à ce sujet qui est absolument stratégique. Et ce qui a été fait déjà, c'est que chaque année, il y a 70% des éleveurs de la coopérative qui font un diagnostic de CO2. Donc ça, on est, je pense, vraiment en pointe au niveau de la filière là-dessus. On a une base de données de tout ce qui se passe au niveau des fermes qui est assez large, et ce qui nous permet de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est faire des diagnostics détaillés au niveau des fermes avec un intervenant qui est d'une société qui s'appelle CAP2ER et qui accompagne sur des diagnostics personnalisés et des plans d'action au niveau des élevages. Et donc là, on devrait avoir fait à peu près 20% des exploitations avec des plans d'action personnalisés d'ici la fin de l'année.
Est-ce qu'il y a des grands sujets transversaux ? La FAO parle aussi de captation du carbone par les pâturages.
Ouais.
On parle de l'origine et du type d'aliment qu'on donne aux animaux qui a un impact important dans les émissions de carbone. Est-ce qu'il y a des grandes lignes ? Vous avez une base de données importante.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des grandes lignes directrices qui ressortent ?
Oui. Ben, je laisse peut-être Freddy parler...
Par rapport à ça,
avec des expériences.
Ouais. Donc, par exemple, moi, je vais ramener ce qu'on peut mettre en pratique sur nos exploitations. Donc, par exemple, il y a au point de vue sanitaire sur les animaux, on a des choses qui nous aident, comme les signes de vache et des formations qui sont faites, où en regardant l'état des animaux, en analysant, par exemple, les déjections des animaux, on voit comment ils ont digéré et tout, et en fonction de ça, on adapte nos rations. Et quand on prend pour avoir du lait, une vache doit avoir au moins 2 ans. Le fait de la faire grandir en tant que génisse, on n'aura pas de petit veau avant 2 ans. Donc pendant 2 ans, on l'a fait grandir. Et donc en fonction de ça, si on l'a mal alimentée, qu'elle a duré plus de 2 ans, Donc, ça veut dire qu'on a consommé plus de carbone, donc on a un moins bon résultat en CO2.
Et un moins bon résultat économique.
Donc, ouais. L'un va de pair avec l'autre. Donc.
Ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à opposer engagement écologique et performance économique. Là, tu nous démontres finalement
non,
qu'il y a
tout,
un
non.
intérêt lié.
Et même quand on parlait du méthane, y a des, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, l'énergie est un grand sujet dans tous les points. La filière agricole, on a aussi un rôle à jouer, par exemple avec le développement des micro-méthaniseurs où on réutilise les déjections des vaches pour faire l'électricité et ces déjections, une fois passées dedans, servent d'engrais pour faire pousser l'herbe. Donc avec cette herbe-là, on va pouvoir alimenter les animaux. Donc c'est un cercle vertueux et qui en plus permet à l'éleveur d'avoir un autre débouché sur l'exploitation.
C'est de l'économie circulaire avec le cycle de l'azote, oui, c'est ça, super. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques à la fois
Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être techniques. Par exemple, un truc tout bête, on produit du lait et on peut mettre des systèmes sur nos tanks à lait qui, avec la chaleur dégagée par le lait, on préchauffe l'eau. Donc du coup, on consomme moins d'énergie. Maintenant, il y a aussi beaucoup les panneaux solaires. Il y a plein d'offres, de possibilités, d'offres d'analyse aussi, de logiciels qui nous permettent d'analyser nos résultats, le suivi, d'avoir un œil plus précis sur notre troupeau. Et donc, pouvoir se dégager du temps pour analyser et voir l'efficience de notre activité. Quoi.
Oui, donc c'est un vrai levier d'innovation et de performance économique associée.
Ce qui permet aussi pour l'éleveur, du coup, d'avoir une activité qui est moins, on va dire, physique et de reprendre du recul et d'avoir plus de temps disponible à être auprès de ses animaux.
Très bien. Alors, juste avant de terminer, tous les deux, vous avez, la question s'adresse à tous les deux, vous avez lancé une grande consultation nationale, alors à la fois auprès des parties prenantes internes et externes, pour construire, dites-vous, ensemble la filière laitière de demain. Est-ce qu'il y a des choses qui sont remontées que vous pouvez nous partager ici, qui nous projettent un petit peu, effectivement, dans l'avenir de ce que sera l'élevage laitier, et en tout cas des convictions de Sodiaal sur ce sujet?
Donc ouais, il y a quatre grands points qui se sont ressortis. Donc c'est le partage de la valeur, qui est pour l'aspect coopératif. On redistribue la valeur du résultat de l'entreprise à l'ensemble de nos adhérents.
Et ça, donc, c'est pas nouveau aussi?
Oui, mais ça, c'est quand même beaucoup plus revalorisant pour l'exploitant comparé à un système de privé. Où,
vous réaffirmez cette valeur,
ouais,
ok.
C'est, les gens sont beaucoup attachés à ça et dans le milieu agricole, ça se fait même pour la production. Il y a d'autres petits systèmes de coopération pour l'utilisation du matériel, des choses comme ça. Les gens sont très attachés à ça. Et ça permet aussi un mode d'échange entre agriculteurs qui crée du lien entre les gens.
Après, sur le partage de la valeur, il y a aussi la question qui est, y a-t-il assez de valeur attribuée au lait, à l'alimentation de manière générale, qui permet de bien rétribuer l'amont agricole? Et donc, quelque part, on sait que les marges sont restreintes pour les différents intermédiaires de la chaîne. Donc, il y a quand même une question qui est centrale en France, qui est un lait de conso qu'on paye, je ne sais pas, à 60 centimes du litre. Est-ce que c'est le vrai prix de l'alimentation qui permet de bien rétribuer l'amont agricole? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit passer pas mal de communication là-dessus sur le fait que est-ce que le lait ne devrait pas être à 1 euro du litre. Et donc, il y a de nombreux distributeurs qui se sont positionnés là-dessus pour dire que, quelque part, le vrai prix du lait se situe peut-être plus à 1 euro pour mieux rétribuer l'amont agricole plutôt qu'aujourd'hui sur des premiers prix, par exemple, ou sur des promos qui peuvent être très agressives.
Voilà, ça, c'est un bon point, parce qu'il faut faire grossir le gâteau pour mieux, pour que chacun ait une part plus importante. Je comprends le point. On va te rétorquer qu'on est en pleine période de récession économique ou d'inflation et que c'est compliqué. Comment est-ce que vous objectivez le fait que 1 euro, c'est un prix soutenable et qui permet de pérenniser la filière potentiellement versus 60 centimes? Est-ce qu'il y a des éléments de mesures qui vous permettent de faire ça? Je sais que certaines marques comptabilisent les tonnes de CO2, par exemple, qu'elles vont économiser en faisant des filières plus vertueuses que d'autres et qu'elles essayent de valoriser ça auprès des clients. C'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez utilisé des techniques où vous avez...
Je reviendrai sur ton point de crédit carbone parce qu'on n'en a pas parlé avant. Mais par rapport à ta question qui est objectivée, pour moi, c'est très simple, c'est le prix du lait. Et le prix du lait qui est payé, par circuit ou même par, on pourrait même aller par client. puisqu'en fait, il y a un prix du lait payé aux éleveurs qui est fonction du prix qui est vendu aux consommateurs. Donc, c'est vraiment totalement corrélé. Et là, on peut voir, en mesurant l'écart entre le prix avant-après, quelle est la part de ce prix-là qui est allée à l'amont agricole. Et donc, c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de la loi EGalim, de faire en sorte qu'il y ait effectivement ce ruissellement entre le prix payé par le consommateur et que ça aille directement aux agriculteurs. Donc là, c'est très, très objectivable. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, voilà, ils ont été nombreux à s'engager dans ce contexte compliqué d'inflation sur un prix du lait à 1 €, ce qui est assez courageux de la part de ces distributeurs.
Freddy, je t'ai coupé la parole. Tu disais 4 points. Tu en étais au deuxième, je crois.
Donc, oui, donc il y a la fierté d'appartenance. On a 64% des éleveurs qui sont fiers d'être qui sont fiers d'appartenir à Sodial. Il faut se rappeler quand même que Sodial, depuis 2011, a doublé de volume et il y a plus de la moitié des éleveurs qui sont arrivés d'un secteur privé. Donc c'est toute une remise en question aussi des gens qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans un fonctionnement. Et donc il faut se remettre en question et s'investir dans une entreprise dans laquelle on n'était pas auparavant. Donc pour eux, c'est la découverte d'une nouvelle entreprise, d'un nouvel fonctionnement. Et donc on peut que être fier que les gens y adhèrent sur notre fonctionnement.
Alors ça, c'est la preuve d'une réussite de l'intégration du secteur privé, comme tu dis, mais ce n'est pas un enjeu 2030. Est-ce que tu veux passer de 64% de fierté à, je sais pas, 90%? C'est quoi le...
Ah bah, il faut continuer, ça c'est sûr. Là, ça fait une dizaine d'années, donc on espère D'accord. qu'en 2030, on sera beaucoup plus. Mais...
Et juste pour illustrer, effectivement, il y a des fortes disparités par région. Et il y a des régions pour lesquelles voilà, il y a une déprise laitière, donc il y a de moins en moins de producteurs qui sont particulièrement marqués, par exemple le Sud-Ouest. Et un des leviers qu'on a trouvé pour booster la fierté d'appartenance, donc peut-être à reproduire dans le cadre de cette mission 2030, c'est des initiatives locales. Et c'est pas évident, hein, pour une grande entreprise... d'innover
marque, ouais.
avec une des marques fortes nationales type Yoplait, Candia, Entremont, d'innover au niveau local. Et voilà, c'est ce qu'on teste là avec une marque qu'on a lancée qui s'appelle Les Éleveurs du Sud-Ouest.
Ça, c'est une nouvelle marque.
Ça, c'est une nouvelle marque qui a été lancée cette année. Pareil, c'est venu des éleveurs qui ont remonté le fait qu'il y a un besoin de booster l'appartenance et quelque part l'investissement des éleveurs au niveau du Sud-Ouest. Et donc, on a travaillé avec cette région-là pour arriver à cette marque qui vend du lait, du fromage. Et pour l'instant, ça se passe très bien parce que les consommateurs voient qu'il y a une marque qui est locale et qui reverse, puisqu'on le met aussi sur le pack, 5 centimes par litre de lait à l'amont agricole, aux éleveurs locaux.
Oui,
donc, multiplier des initiatives qui permettent d'engager les régions, les territoires à travers des initiatives locales, ça doit faire partie des enjeux de la filière, nécessairement. Surtout en France, avec en plus le nombre d'AOP qu'on a, le nombre de filières, le nombre de terroirs, de territoires. Il y a quand même beaucoup de choses à faire.
Et pour finir précisément sur ce projet d'aide à l'installation, tu disais qu'il y a encore des enjeux de développement. Donc, c'est de l'extension du référencement auprès des distributeurs
ouais.
qui doit
ouais.
arriver pour 2023. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu...
Sur le lait, Candia et les jeunes agriculteurs, je dirais que voilà, notre principal enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de diffusion et de mise en avant. Donc, faire connaître le produit. On sait qu'avec, quelque part, le peu de moyens qu'on a mis dessus, bah, ça marche bien. Les consommateurs comprennent et achètent. Et c'est quelque chose de vertueux, puisque vraiment, ça va vraiment booster la filière dans son ensemble. Donc voilà, moi, mon message auprès de nos partenaires, c'est allons-y à fond, tous ensemble, et boostons la visibilité de ce type d'initiatives qui ne peuvent être que bénéfiques pour tout le monde.
Alors, pour prolonger cette discussion, Gérald en particulier, parce qu'on va être sur un sujet marketing, quel conseil tu donnerais aux entreprises qui souhaitent s'engager dans la voie de l'offre responsable et aux étudiants qui sont là à nous écouter? Est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels tu as envie d'insister?
Alors, dans la lignée ta plateforme, réussir avec un marketing responsable. Je pense que le marketing ne peut être responsable que s'il y a une volonté de la direction générale et un alignement avec les valeurs de l'entreprise. Sinon, c'est du greenwashing. Donc, déjà, le croire vraiment et faire en sorte que tous les employés, notamment au niveau du marketing, soient engagés. Le fait que, par exemple, au niveau de Sodial, les marketeurs soient proches des éleveurs, enfin, on a fait récemment un séminaire, non seulement on est allé visiter des fermes, on a des adhérents qui sont venus, et le discours que j'ai adressé, c'est que ça fait partie de notre métier de connaître ce que vivent les producteurs et de pouvoir l'exprimer auprès des consommateurs. Donc, mon premier point, c'est un alignement entre les valeurs de l'entreprise, la volonté de la direction générale et là où doit aller le business. Le deuxième point, c'est aussi identifier en quoi la responsabilité au sens large va pouvoir créer des avantages compétitifs. Parce que on a une responsabilité aussi de faire croître des parts de marché, de faire croître des marchés, d'investir sur des innovations. Et donc, quand on parle de nutrition, par exemple, moi, j'adore prendre cet exemple qui était que avant, Candy Up Fraise était rose. Or, il n'y avait pas de vraies fraises dedans.
C'était de l'aromatisation.
De l'aromatisation et un colorant. Et ce qu'on a fait, c'est de dire que, en fait, ça n'a pas de sens.
Donc, le candy aux fraises, il est plus rosé.
Donc, le candy aux fraises est blanc. Et effectivement, quand on l'a lancé en rayon, on a eu une baisse de vente. Sauf que cette baisse de vente a permis, pour moi, de crédibiliser l'action de la marque au global. On a baissé dans la foulée 30% de sucre dans tous nos produits. Donc, on a supprimé tous les additifs. On était en Nutri-Score D, on est passé en Nutri-Score B. Pour moi, ça fait partie quelque part d'une vision de marque où tu es prêt à perdre parce qu'il y a parfois des choses qui sont contradictoires avec des objectifs de vente, mais il faut voir où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux emmener la marque, et où tu veux l'emmener, quelque part, ça doit être bénéfique pour les consommateurs qui, derrière, t'achèteront plus et qui te permettront d'augmenter tes parts de marché.
Donc tu crées des preuves de confiance, c'est comme l'amour, il n'y a que les preuves qui comptent.
Exactement, c'est exactement ça.
Cher Freddy, est-ce que le marketing te paraît responsable chez Sodial ?
Bah oui,
c'est pour le dis pas
non, Freddy. Ce qui est vraiment très intéressant chez Sodial, c'est qu'on peut échanger facilement avec le marketing et on peut toujours y mettre nos idées dedans. Parce que moi, je suis agriculteur, mais je suis aussi administrateur chez Sodial. Donc, je fais partie du conseil d'administration et ce qui nous permet d'échanger tous les mois ou tous les un mois et demi avec les différents... différentes activités du groupe. Et donc, quand il y a des choses qu'on pourrait juger, nous, personnellement, que ça ne nous va pas, on peut donner notre idée. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que notre idée ne sera peut-être pas retenue, mais l'ensemble des décisions prises du conseil d'administration feront que ça sera validé ou pas.
Ce qui permet
qu'il y a une connexion qui reste tout le temps entre les effectifs de Sodial et le terrain. C'est ça ce qui est intéressant.
Parfait. Alors... Donc, vous avez été élu...
Je n'ai pas donné de conseils aux étudiants, j'ai donné des conseils aux entreprises, là, du coup.
On va voir ce qu'ils posent comme question après.
D'accord.
vous avez été... Candia a été élu sur cette pratique en 2022. Ce qu'on fait dans ce podcast, à ce moment de l'émission, c'est un conseil, une marque que tu aurais repérée pour les mêmes engagements, un sujet qui te paraît particulièrement pertinent, bien traité d'un point de vue marketing et qui, de ton point de vue, devrait candidater pour 2023. Est-ce que tu as une marque à nous recommander ?
Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé, mais je crois qu'ils ont déjà reçu des prix, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus... C'est l'initiative de Decathlon sur la location de vélos et les vélos d'occasion.
D'accord, ouais.
Globalement, le réemploi, ça me paraît être un sujet énormissime.
L'économie circulaire, absolument.
L'économie circulaire, et surtout dans des biens, d'équipement... tels que voilà, le sport, bon, on pourrait parler du high-tech, ou si on parle de l'alimentaire, ça va être le réemploi d'emballage. Donc, pour moi, c'est vraiment un des gros axes sur lequel le marketing et globalement les business models doivent s'orienter pour le futur.
Hyper intéressant, Freddy. Est-ce qu'il y a une marque, une initiative qui t'a frappé les esprits ?
Après, moi, je n'ai pas une connaissance de toutes les marques, initiatives qui se passent dans le domaine. Moi, je vais prendre une initiative qu'on a, nous, chez Sodial.
Ah ben bah non, ça c'est... Il faudra recandidater l'année prochaine. Vas-y.
Mais c'est par exemple Nature de Breton, où on fait des emballages éco-responsables, ce qui ne se faisait pas dans nos produits et en recyclable. Donc c'est...
Eh ben, faudra revenir l'année prochaine, c'est parfait.
On candidatera, c'est promis.
En toute transparence.
Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Océane Grouel, Brick Saliou et Baptiste Kergent, trois étudiants au sein du master Sciences Com Audencia de Florence Touzé, qui est notre partenaire depuis le lancement de cette plateforme, et Florence particulièrement impliquée sur tous ces sujets. On va donner le micro à chacun au fur et à mesure pour avoir votre ressenti. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans la présentation de Gérald et Freddy ? Est-ce que vous considérez que cet exercice de transparence a été réussi et pourquoi ? Et quelles questions vous avez envie de leur poser pour enrichir cet entretien ? C'est Océane qui commence.
Donc ma question, c'est pour renouveler justement ces générations d'éleveurs, est-ce que vous visez principalement des entreprises familiales ou plutôt des personnes qui cherchent à se reconvertir dans la production laitière ?
Donc mon point de vue en tant qu'éleveur, on est de moins en moins issus de la que nos parents étaient agriculteurs en fait. Et pour échanger avec différentes personnes dans nos activités ou même moi sur mon exploitation, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur. Et notamment des jeunes qui ont eu un parcours de vie, qui sont partis dans des études et qui, au bout d'un moment, prennent du recul, se dire tiens, c'est pas ça que je voulais faire. Et on voit de plus en plus de gens, j'en parlais encore cette semaine avec quelqu'un qui travaille vraiment dans l'emploi agricole et qui me disait que maintenant, il y a 40% des gens qui arrivent de l'extérieur. Parce que des gens qui ont entre 20-25 ans, sortis de l'école, ils se disent non, c'est pas ça que je veux faire. Et viennent vers le milieu agricole parce que notre métier offre plusieurs métiers en un, en fait. On peut toucher à plein de choses. On est éleveur, on est vétérinaire, on est agent de mécanique, on est conducteur d'engin, on est en tant que chef d'exploitation, on est comptable, on est un peu banquier aussi. On touche à tout, en fait. Et c'est ça qui plaît souvent les gens qui viennent dans notre métier.
Parfait, Briègue.
Bonjour à tous les trois. Pour ma part, passant régulièrement mes étés dans un élevage porcher, j'ai connaissance des difficultés agricoles sur le rachat mondial des matières premières nécessaires à l'alimentation des animaux d'exploitation. Et j'aurais aimé savoir si le secteur laitier était-il impacté ou non par ce phénomène. Et si oui, comment vous faites pour en faire face, tout simplement ?
C'est la hausse des matières premières ou la provenance, c'est ça le sujet ?
Plus la hausse.
La hausse, ok.
Donc, par rapport à toute cette hausse, cette inflation qu'il y a sur tous les différents domaines et notamment sur les matières premières, nous, en activité laitière, la grosse majorité de notre alimentation, ce sont des fourrages qui sont issus de l'exploitation. Et donc, il y a, allez, on va dire, 10-15% qui vient de l'alimentation que l'on peut acheter à l'extérieur avec de l'aliment. Et donc, cette partie-là a fortement augmenté. Si on prend les cours, ça a doublé, par exemple, sur les cours d'aliments par rapport à il y a un an et demi. Donc c'est pour ça que quand on voit des augmentations de produits en magasin, on est obligé de passer par là, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir à nourrir nos animaux. Mais comme tu parlais qu'en élevage en porc, c'est toute l'alimentation qui vient d'aliments achetés, donc eux ils sont encore beaucoup plus impactés que nous.
Très clair, merci. Baptiste ?
Bonjour à tous les trois. Ma question était de savoir si cette initiative n'a pas pour but uniquement de retarder l'échéance, parce que si les choses ne changent pas, ce cercle vicieux... apparaîtra de nouveau dans quelques années en raison d'un manque d'attractivité pour ce métier dû aux conditions et à la charge de travail. Du coup, je voulais avoir votre avis sur tout ça.
Est-ce que ça va assez vite, en fait ? C'est ça que tu dis ?
Est-ce que ça va assez vite ? Et aussi, est-ce que en raison de la charge de travail et des conditions de travail, c'est attractif ? Et l'initiative de Candia n'est pas juste un pavé dans la mare, et parce qu'elle va se reproduire sûrement dans les prochaines années en raison de tout ça.
Donc, je vais répondre sur cette question-là aussi. Pour moi, on met justement en avant le problème qui est à venir. On n'attend pas de se cacher derrière ça et de rien dire du tout, puis on verra bien ce qui va se passer. En faisant ces actions-là, on met clairement le point sur des difficultés à venir afin d'essayer de trouver tous les axes possibles. Moi, je vais prendre l'exemple de mon exploitation. Actuellement, j'ai 3 salariés. Les 3 viennent de milieux hors agricole. Et j'en suis très, très content parce qu'il y a une autre approche. Et du coup, par rapport à la pénibilité du travail que tu dis, ça permet d'avoir un autre regard sur nos activités et d'adapter notre travail et nos modes de travail, nos rythmes de travail en fonction des contraintes de notre métier et des contraintes que chacun peut avoir personnellement dans sa vie privée. Et donc, à partir de là, on peut créer une organisation. Mais par contre, pour pouvoir faire des choses comme ça, il faut avoir des structures qui le permettent aussi, quoi. Donc, il faut savoir, des fois, se dire, on va peut-être gagner d'un côté, perdre de l'autre, mais il faut savoir créer. Moi, mes parents, quand ils se sont installés, mon père avait créé les CUMA, en fait. Les CUMA, c'était un groupement d'agriculteurs pour mettre le matériel en commun. Donc, chacun avait son exploitation dans son coin et on achetait du matériel en commun avec un salarié qui lui faisait le travaux des champs. Mais du coup, tout le monde travaillait tous les week-ends, toujours sur son exploitation, puisqu'il fallait s'occuper des animaux. Moi, j'ai pris l'aspect inverse de mes parents. J'ai dit, on va tous se regrouper, on va tous travailler ensemble, et comme ça, on va faire un planning, et on aura chacun des week-ends, des vacances, et pouvoir avoir une vie privée à côté.
Si Gérald a mis un pavé dans la mare, est-ce qu'il est assez gros, le pavé? C'est ça, la question.
mais c'est une super question, parce que c'est effectivement... Si on regarde les chiffres depuis 2020-2021, il y a quand même une inversion de la tendance. On était plutôt sur une tendance haussière de la collecte de lait, et maintenant on part sur une tendance baissière. Et c'est particulièrement vrai en France, mais pas que. C'est vraiment vrai au niveau mondial. Mais c'est particulièrement vrai en France, de par cette pyramide des âges. Et ce que tu dis est un vrai, vrai risque. C'est-à-dire, on pourrait effectivement, dans 10 ans, se retrouver à un déficit, quelque part, de lait français par rapport aux besoins de consommation en France. Et ça voudrait dire besoin d'importer du lait. Et on pourrait très bien se retrouver à devoir consommer du lait étranger, des fromages faits en France, mais avec du lait étranger, etc., parce que on aura tout simplement ce déficit-là. Moi, j'adore ton exemple, Freddy, parce que ça montre une voie. On sait que le souci, il est là. C'est un souci vraiment d'adéquation avec la société. On ne peut plus continuer comme ça à avoir des gens qui travaillent le week-end et qui ne sont pas bien rémunérés.
La question, Gérald, est-ce que ça va assez vite ?
Et est-ce que ça va assez vite ?
Est-ce que tu as mis assez de moyens sur ce projet-là, là, maintenant, pour adresser les enjeux ? Est-ce que tu es confiant sur la capacité de retournement par rapport
Effectivement, c'est une initiative qui a pour but, effectivement, d'aider des jeunes agriculteurs, surtout de médiatiser un peu ce sujet. C'est pas ça qui va faire que tout va se retourner. Par contre, ça va être une initiative positive dans le bon sens. Je pense que là où le sujet va vraiment se retourner, où on va re-avoir une collecte en croissance, c'est à partir du moment où les jeunes vont pouvoir trouver leur compte. Et donc, peut-être que les hausses aujourd'hui de prix qu'on est en train de connaître, si on vise une consommation de lait qui sont peut-être à des prix qui sont un peu plus hauts, peut-être que les éleveurs seront un peu mieux rémunérés. Et si, quelque part, il y a de plus en plus de gens qui s'organisent pour pouvoir se libérer du temps, on va pouvoir repartir dans un cercle positif. Mais il y a vraiment du travail.
Merci à vous trois pour ces questions et ces échanges. Merci à Gérald et Freddy pour s'être prêtés au jeu et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur sogood.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager et le commenter. Merci également à l'Union des marques, à Lilec, à l'ADETEM, Citeo et Audencia. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence. En toute transparence.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde ?
Spoiler.
Oui.
Et comment ?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout ? Juste de l'humour ?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.